Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Amel Vic, bonjour.
Bonjour.
Et de Eddy Aguercif, bonjour.
Eh oui, bonjour et salut.
Eddy, on se retrouve pour une nouvelle année avec cette organisation qui s'intitule Tous en bottes. Ça aura lieu ce dimanche 7 mai à partir de 10h. Ça se passera à La Baume. Alors, c'est une rencontre autour des circuits courts de produits biologiques locaux et naturels. Alors, peut-être présenter aussi cette philosophie qui existe depuis combien d'années ?
Mais je crois que c'est... Il y a 10 ans, vous êtes passé à la première foire. Elle a lieu tous les 2 ans, mais il y a eu un petit arrêt. Au lieu de 2020, ça c'est 2023. Voilà, on a changé les dates. Hein, voilà. En fait, on est en 2020, mais c'est 2023. Voilà, il ne s'est rien passé. Donc on va organiser ça, c'est en pleine organisation. Hein. Alors ce sont des gens qui viennent de plusieurs vallées. Alors on est dans les Hautes-Alpes, bon, on est les cousins de la Drôme. Par rapport à la manière dont c'est foutu chez nous, c'est des vallées qui ne se connectent pas forcément. C'est pas simple de se voir. Et puis, on est toujours envahi, entre guillemets, hein, ou par la technologie qu'on ne veut peut-être pas, ou par le tourisme qui n'est pas forcément quelque chose... Alors nous, ce qu'on veut, c'est faire un développement, en fait, qu'il y ait des gens sur place, et puis que ces gens ils puissent produire des choses, parce qu'autour de nous, on est d'une richesse absolue, quoi, en fait. Voilà l'analyse. Alors, la richesse, ça se partage, donc on fait tous en bottes. On montre aux gens où on est, ce qu'on fait, et les valeurs de nos vallées. Il y a beaucoup de gens qui sont très différents. Et dans notre vie, on fonctionne par... pas par caste, je suis trop méchant, mais on fonctionne par affinité, plutôt au niveau du travail. Donc on a tendance à rencontrer que des gens un peu comme soi, environ à peu près. Là, tous en bottes, c'est l'occasion de rencontrer des gens pas comme soi. La seule chose qui nous réunit, c'est qu'on est des humains. Voilà, je ne vais pas être plus long.
Non, c'est jamais assez long. Par contre, c'est l'association Bouèche Coopérative hein, qui porte l'événement.
C'est l'association Oreille.
Oreille, et donc qui a cette charge donc de cette coopérative hein, qui se situe à La Baume.
Alors nous, on est au niveau de la charge mentale, on est arriéré complètement. Et il y a 10 ans, plusieurs personnes se sont réunies et ont parlé de ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait... Alors le supporter principal, c'était Bouèche Coopératif, qui était un petit magasin qu'on venait de créer sous forme coopérative. Et là, 10 ans... On passait, mais le magasin, il avait déjà encore 5 ans avant. Hein. On s'est un peu lassé de servir. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, on a laissé la place à une autre personne, qui était une des personnes clientes, hein, tout simplement. Et puis, on lui a laissé le magasin, et puis voilà. Mais il y a Tous en bottes. Et Tous en bottes, c'est qui ? Eh bien, il y a 4 assos qui sont dessous. Et mentalement, c'était « on va développer nos endroits ». Alors nous, on y est encore, on n'est pas mort. Alors ça risque de durer, cette affaire. Donc c'est toujours un des autres qui va porter. Là, c'est l'Oreille, cette année. Association Oreille, accueil de personnes autistes ou différentes. Hein. On met autistes parce que c'est notre boulot principal dans cette association. Donc, on veut communiquer. Eh bien, Tous en bottes, ça correspond tout à fait. En plus, cette association utilise le bio, etc., etc. Donc cette année, c'est l'association Oreille. Bouèche Coop n'existe plus. Le nom existe toujours, mais avec le nouveau propriétaire. Ça s'appelle Bouèche Coop tout court. Il sera à la foire, avec sa bouffe hein, et tout. Comme d'habitude, ça n'a rien changé en fait. C'est les statuts qui changent. Mais comme il n'y avait pas d'histoire d'argent, qu'on n'a jamais demandé de subvention à personne, qu'on a une cagnotte, qui est alimenté par les gens de chez nous, alimenté bénévolement, comme ça. Donc on peut organiser quelque chose. Voilà, voilà, ça y est, c'est comme si c'était fait, hein, pour nous. Donc la suite, ça sera dans 2 ans, en 2024, enfin, en 2025, si tout va bien, hein, voilà. Donc on vous attend, hein, on vous attend, hein, Yves. Ouais, ouais, ouais.
Justement, est-ce que sur le territoire du Bouëch a lieu en ce moment ce projet de alimentaire de territoire ?
Alors, il y a toujours, hein, depuis la dernière foire, on a pu constater en tant que citoyen qu'il y a eu beaucoup d'installations d'agriculteurs bio, mais pas bio-industrie. Le petit, ce qu'on aime, famille et petite production et polyvalence. Hein. Et ça, pour nous, c'est le développement, c'est la suite de tout ce que tous les autres ont pu faire avec nous. Voilà. De montrer qu'on pouvait, que ça existe, que si... Que... Voilà. Donc on est très très content.
Et donc la Bouëchecoop se charge de cette distribution. Alors, de production.
Elle, la Bouëchecoop, elle fait toujours la même chose que nous, hein, mais avec simplement nous, les sous, on les remettait dans les gens complètement, et nous on était des bénévoles. Et là maintenant, c'est un privé, donc les sous il en prend un peu pour lui, voilà, mais il fait les mêmes affaires, les prix n'ont quasiment pas augmenté. Par contre, c'est les types de produits qui ont changé, parce que l'éthique chez nous, c'était avec trois choses, on fait tout. Il suffit de se pencher dessus. Là, maintenant, l'éthique du magasin, c'est ben, y a déjà tout. Voilà. Donc, on se penche sur rien et on dépense de l'argent. Voilà. C'est un peu la différence. C'est la seule différence. Hein. Elle est intellectuelle. Voilà. Donc, tout l'intellectuel ne fait pas que la vie. Hein. Il faut le pratico-pratique. Donc, il y a toujours la COP qui distribue toujours les mêmes producteurs, d'ailleurs, hein, je crois. Amel, on la distribuait, mais je crois que j'ai vu ton toujours. Chocolat là-bas. Ouais, hein, ouais. Ouais. Donc, elle y est toujours. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Donc, ça a continué sur ce système-là. Hein. Bien que ce soit un autre mental. Alors, on est très contents, encore une fois.
Hein. Je voulais savoir, par rapport... est-ce qu'il existe un bilan ou un constat de ce qui est produit localement et à quel pourcentage de la consommation alimentaire cela prend ?
Mais là, on ne sait pas trop, parce que ce sont les chambres d'agriculture qui s'occupent de ça. Et les chambres d'agriculture, c'est très bien, mais voilà quoi. Nous, on n'est pas dans ce réseau-là. Certains agriculteurs qui vont venir, ouais, ils sont dans les chambres d'agriculture. Ouais. Mais ils sont toujours un peu en marge, en fait, puisque entre la réalité, la grosse réalité d'argent, d'investissement, tout ça, et puis la petite réalité de nous-mêmes humains, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas les mêmes choses. On ne parle pas le même langage, en fait. Hein, voilà. Donc, beaucoup plus de gens qu'avant parlent notre langage, c'est-à-dire d'être en solidarité sur des projets, de développer avec d'autres, même si on n'a pas financièrement un intérêt à... C'est un intérêt qui est intellectuel, là, qui est pour les gens, le bien-être des gens. Hein. On voit ça un peu sous ce biais-là. Donc, depuis le début, il avait été décidé que c'était une foire qui était organisée où on invite les gens, voilà. Donc c'est pas comme d'habitude où les gens ils payent, il y a un emplacement, etc. Hein. Puis eux ils calculent dans leur tête, est-ce qu'il y aura du monde, est-ce que, ben oui, il faut qu'ils fassent leurs affaires. Là il y a un peu ça parce que les gens qui viennent, ben il faut aussi qu'ils puissent montrer et vendre leurs produits, mais ils les expliquent les produits et on est plus proche de ce qu'on appelle un consommateur qu'un vilain mot, hein, d'une personne nécessitant un objet ou de la nourriture. Voilà, on est beaucoup plus proche à ce moment-là. Il n'y a pas la notion d'argent. Voilà. Donc le terrain, il est mis à disposition par un privé. Voilà.
Alors ce jour du 7 mai, on pourra y découvrir nombreux stands autour de la construction, la création, du recyclage. Il y aura aussi des conférences, des projections également, et puis des productions, des cueillettes, des transformations locales, et notamment celle d'Amel Vic avec le chocolat cru, et qui présentera donc un aspect des transformations du cacao.
Ouais, tout à fait, du cacao. Et du coup, oui, en fait, nous, en grande partie, on fabrique notre beurre de cacao à partir de la fève. Et aussi, on fait ça avec une presse, en fait, c'est une presse à vis. Et du coup, on fait aussi d'autres transformations. Par exemple, on fait aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc, en fait, comme je pense qu'il va faire chaud, le week-end prochain, je viendrai avec un peu de chocolat, mais pas que du chocolat. Donc un peu d'extrait. On fait aussi différents beurres pour la peau, voilà, j'ai différentes recettes là. Et de la crème à tartine, des choses comme ça qui craignent moins la chaleur. Voilà. Mais l'idée, c'est surtout pour aller rencontrer d'autres transformateurs et d'autres agriculteurs de la région.
Cette volonté d'avoir créé Chocolat Cru, d'abord une passion pour le cacao.
Oui, une passion pour tout ce qui est les produits de bouche. Ouais, tout à fait. Et aussi parce que c'est une matière qui amène à se marier avec les plantes et voilà, qu'il y a beaucoup de, on peut faire énormément de choses avec. Donc c'est un peu toujours une découverte et voilà, une aventure vers des nouvelles recettes. Et puis là, on est aussi en agriculteur, donc on cultive une partie des plantes qu'on utilise. Voilà, les cassis, les roses. Pas mal de choses comme ça qu'on met dedans. Donc c'est un peu une aventure à plusieurs facettes. Ouais.
Il y a aussi l'aspect bio. Et pour ça, la provenance des fèves sont également issues de la production bio. Et de quel pays d'ailleurs ?
Alors oui, les fèves sont bio, toujours bio et du commerce équitable. Alors nous, on n'a pas mis le label équitable parce qu'il coûte très cher. En fait, il coûte 2000 euros par an pour les transformateurs. Mais les fèves qu'on achète sont déjà labellisées équitables. Et on travaille surtout avec l'Équateur, voilà, avec des fèves qui viennent d'Équateur. C'est la Riba nationale. Et puis aussi avec du criollo qui vient du Pérou. Voilà, ça nous est arrivé aussi, une super matière, un peu plus fruitée, un peu plus sur l'acidité. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces histoires qu'il y a eu dans les années 2020, avec les bateaux, c'était pas toujours... c'était pas toujours...
Il y a eu rupture de stock.
Ouais, des fois, les gens, voilà, ils s'appartaient pas. Il y a eu beaucoup de peur de partout. Donc, on a travaillé le criollo aussi, ouais.
Justement, Eddy, il y a eu aussi la même problématique pour d'autres producteurs présents.
Oui, il y a Cécile qui... Elle fait de l'huile à base de graines.
D'accord.
Donc tournesol, chanvre. Elle sera là, hein, d'ailleurs, elle aura sa presse. C'est le même genre d'histoire. Quand on se fournit, ça a déstabilisé absolument tous les approvisionnements. Je voulais dire simplement, elle me faisait penser, j'ai dit, mais une fève avec un masque, ça doit avoir une drôle de gueule, quand même. Voilà, on peut faire ça pour tout, quoi. Donc... C'est un problème. Ça a été je pense que c'est toujours, hein, puisque ça a fait augmenter automatiquement les prix des fournitures alimentaires de base, pour beaucoup.
Ouais. Et d'ailleurs, Amel, on peut peut-être décrire l'activité de transformation. Tu as cette matière première qui sont des fèves.
Voilà. Donc en fait, il y a deux façons de faire le chocolat. À partir des fèves, il y a la façon qui est plus traditionnelle, qu'on retrouve plus en France et en Europe. C'est-à-dire que dans une meule de pierre, d'abord on enlève la peau de la fève, et ensuite dans une meule de pierre, on va la concher pendant très très longtemps, c'est-à-dire plusieurs jours, pour avoir quelque chose de très fin. Mais on rajoute à cette matière 30% de beurre de cacao. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la fève, il n'y a pas assez de matière grasse pour faire le chocolat. Donc si on peut faire un peu une pâte de cacao qu'on trouve d'ailleurs souvent en Amérique du Sud et ça se râpe, c'est quelque chose d'assez sec, on peut râper soit dans les préparations salées, soit sucrées. Mais le chocolat tel qu'on le consomme en Europe, en fait, il est plus travaillé et du coup, on rajoute du beurre. Ou alors, on fait comme a inventé Van Houten, on part du beurre de cacao et de la poudre, on sépare la fève en deux parce que la fève a besoin... d'exploser au niveau des molécules, etc. Il faut que tout ce qui est les volatiles s'échappe, etc. Donc il y a pas mal de transformations. Donc soit on fait le beurre de cacao et la poudre et on réassemble pour faire le chocolat. C'est les deux techniques. Et le fait de travailler le beurre, ça me permet de faire beaucoup de macérations, de travailler les plantes, de faire des macérations, de sucrer aussi avec du miel. Parce que j'aime bien sucrer soit avec du miel, soit avec de la fleur de coco. Et le miel, quand on travaille dans une conche, dans une meule de pierre, on ne peut pas l'intégrer. Donc voilà, c'est des recettes différentes. Nous, on a envie d'avoir une conche. Ça, c'est un projet. On va avoir une conche dans l'été, là. Mais on ne pourra pas faire les mêmes recettes. Ce sera d'autres recettes. Ouais.
Là où je m'interroge, c'est pourquoi il y a cette séparation entre le cacao, la poudre de cacao et le beurre. Il n'y a pas la prise en compte de la matière elle-même et de la prendre dans son intégrité.
Eh ben, comme je disais, il n'y a pas assez de beurre dans la fève. Donc, de toute façon, il faut rajouter du beurre. Donc, il y a de la fabrication de beurre. Hein, c'est la partie noble, hein, quand même, de la fève. Et en fait, c'est, ouais, au niveau du palais, c'est différent. Moi, j'aime bien quand c'est séparé et réassemblé. Ça fait quelque chose de plus... Enfin, après, c'est les goûts. Hein, mais moi, je trouve que c'est plus fin en bouche.
Eddy, l'aspect transformation de produits, c'est un peu aussi la proposition qu'on trouvera sur d'autres matières, d'autres aliments.
Il y a pas mal d'agriculteurs hein, et qui déjà vous proposent quelque chose de... comme tu as fait, mais ça a été fait avant.
Oui.
Donc des yaourts chèvres brebis mélangés. Là.
Et ça, c'est
C'est des trucs pas possibles, quoi, qu'on trouve pas sur le marché. Et les gens, ils essayent. Il y a le yaourt de brebis excellent, on a nos amis Stahl ici, il n'y a pas de problème, excellent. Mais les autres là qui sont installés, les nouveaux, ils osent. Donc, c'est des yaourts brebis chèvres. Ah là là, on tombe par terre, on ne mange plus les autres des autres en fait. Voilà, c'est beau, c'est des mélanges, hein, c'est des évolutions de choses. On aime beaucoup ça nous hein, tous. Puis on aime les produits qui sont bons aussi.
Par rapport à la bouche coopérative, est-ce que en parallèle, c'est développé aussi cet aspect de transformation ?
Ben, la bouche coop, nous, ce qu'on sait, on voit leurs chiffres. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Après, je ne peux pas en dire bien plus. Je sais qu'ils travaillent toujours avec les paysans. Moi, parce que c'est le mot qu'on utilise, nous, hein, on préfère paysans. Donc les paysans qui ont des activités diverses. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui nous fournissent en gros. C'est toujours les mêmes labels, c'est toujours les mêmes exigences. Donc je ne sais pas trop comment répondre à la question, parce que c'est un peu comme tous en botte, c'est toujours les mêmes exigences, c'est toujours la même, le même chemin.
Le circuit court,
si c'est possible.
Mais est-ce que justement cet aspect du circuit court a permis de développer aussi le secteur de la transformation localement ? Est-ce que par expérience ou...
Comme à Mel, bon, on n'a pas le chocolat, mais je ne vois pas, par exemple, ça serait les cochons. Alors les cochons, ben oui, il n'y en avait pas, ils élèvent des cochons, ils les transforment, ils font des produits. Ça, oui, voilà, on est aussi dans la transformation, mais sur un métier complètement différent. Ouais, c'est plein de transformations, je peux te répondre comme ça. On transforme beaucoup plus sur place qu'avant. Donc ça aussi, c'est bien. C'est ça, les circuits
courts. Ça revient, quoi.
Ils redéveloppent, en fait, l'attente des gens. Un très bon produit, le mec, il est à côté, il en a à côté.
Le savoir-faire.
Et les collectivités ou le département ou même la chambre d'agriculture prêtent main forte à cet aspect-là.
On ne peut pas leur jeter la pierre. Ils font ce qu'ils peuvent à leur niveau. Je vais le dire comme ça. Un non-sachant, ben, il ne peut pas donner des bons conseils. Voilà.
Et peut-être aussi qu'on vend plus local. C'est vrai que moi, au début, j'étais plus dans une idée de vendre un peu partout. Enfin, déjà en France, quoi. Donc, je commence à travailler avec des grandes enseignes comme la Vie Claire, un petit peu avec à Paris avec différents, enfin d'autres enseignes, quoi. Et en fait, non. On se dit qu'on veut rester sur de la qualité et on préfère vendre localement aux gens d'ici, quoi, aux gens qui viennent nous voir et travailler un peu avec des revendeurs, mais peu. Vraiment peu, que ça se compte sur les doigts de la main, quoi. Mais rester sur quelque chose de vraiment qualitatif. Et puis, si on veut cultiver ces plantes, les mettre dedans, voilà, faire vraiment un peu toutes les étapes, c'est difficile de faire de la grosse prod.
La grosse production, ouais, ouais. C'est sûr.
Puis après, il faut embaucher des gens et tout, là, ça devient compliqué.
c'est pas d'embaucher les gens, hein, ouais. C'est la problématique, voilà, c'est une autre problème. Ouais. C'est pas que
faut
tu veux pas payer les
niveau.
Gens,
non, mais
c'est
là, faut
complètement différent.
Niveau,
voilà, oui.
Il faut sortir des tonnes et des tonnes.
Il faut fonctionner autrement, ouais. Ah, voilà, ça veut dire ça.
Il faut dépasser un certain seuil. Voilà.
Et quand tu parles de fonctionner autrement, et en parlant des non-sachants, c'est que de suite de leur part.
Donner l'autonomie aux gens, c'est ce qu'on souhaite tous, depuis tout le temps dans nos actions. Et aujourd'hui, quand on regarde avec un peu aérien ce qui se passe dans notre société, c'est le contraire. On parle de ville intelligente à 15 minutes, donc des gens complètement cons dans un endroit complètement fermé, qui achètent ce qu'on leur amène, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne verront pas les producteurs, ils ne verront rien, ils ne comprendront plus rien. Voilà. Donc voilà, on est un petit peu...
Et tout ça sous des caméras intelligentes.
Oui, mais tout sera intelligent, alors les gars.
Bon. Et puis, on va parler un petit peu de ce qu'il y aura aussi à C'est tous en botte. Il y a une proposition d'une association médiéviste, Historia Meridionalis, que je crois a été déjà passée. C'est donc un campement,
il fait son campement
du médiéval.
Du médiéval, avec tout médiéval. Hein.
Avec la cuisine.
La cuisine, mais ça va jusqu'à la petite culotte, sans être... voilà. Tout est fait dans le 13e. Au 13e, c'est tel tissu, c'est telle couture, c'est tel machin, c'est tel style, c'est tel... Voilà. C'est fait comme ça. C'est le pur médiéviste, ils travaillent avec le CNRS, ces gens. Hein. Donc ils sont un peu... c'est du pur, c'est du maniaque. Donc c'est bien aussi, hein, quelque part.
Et puis il y avait l'aspect OST, hein, de l'armée de l'époque, avec des armes d'époque,
en démonstration. Oui, c'est Mike Carpentier, leur président, il est là tout le temps. Lui, c'est un fidèle de BH Coopératif, c'est un fidèle de l'association Oreille. Mais avant, on est issu d'un autre truc, je vais oser le dire, bon, quand même, mais c'est devenu désuet. Je suis un éclaireur de France, des éclaireuses et éclaireurs, donc, des laïcs mixtes, voilà, qui ont créé en fait le scoutisme en France. C'est ça la vérité. Et pas l'autre où c'est les cathos, machin, les scouts de France. On est complètement ailleurs, en fait. Hein, voilà. Donc, issus des gens, et on fait quelque chose pour les gens que nous sommes. Hein. Je vois pas trop ce qu'on a décidé de faire, c'est de montrer aux gens qu'il y avait plein de choses, qu'on pouvait s'intéresser à plein de choses, que la vie, c'était super, à travers des gens qui font un travail qui les éclate, ou pas, Amel, etc., hein, tous ceux qu'on a, artisans d'art, ou qui aiment les choses belles, bien faites, et qui acceptent d'ouvrir, de dire. Parce qu'en général, non, on achète, on s'en va. Hein. Là, ben, on peut acheter, écouter, parler, entendre. C'est vraiment de l'échange, hein, pour nous.
Je peux confirmer qu'on peut y passer aisément la journée en toute tranquillité. Oui. Et puis, plein de découvertes à faire. Et surtout quand il fait beau.
Ça devrait aller, au fait. Hein.
Oui.
On s'inquiète tous un peu, mais ça devrait aller.
D'accord.
C'est très bien couvert. Voilà, on va dire ça comme ça.
Je reviens sur cette association Historia Meridionalis. Pourquoi les avoir invités? Qu'est-ce que ça leur représente pour vous en tant que structure tous en botte?
Eux, c'est l'éducation populaire. Donc l'oreille est aussi d'éducation populaire. C'est porter la connaissance à tous. C'est pour ça que je parlais des sachants tout à l'heure. Le sachant, lui, il s'en fout. Tandis que là, non. On porte la connaissance de ce qu'on sait faire soi-même aux autres. Les autres n'ont pas le temps de s'y intéresser, ils ont aussi leurs propres connaissances. Donc pendant une réunion de ce type-là, on est beaucoup plus détendu. Et puis c'est plus souple, on va dire. Voilà. Ça permet de montrer que si on veut, on peut être souple, hein, en fait. C'est possible, hein, d'avoir une humanité souple.
Et puis c'est une association locale, circuit court ?
Qui ?
Historia.
Historia, eux, ils sont en bas, du côté d'Avignon, à Château-Renard.
Ouais, c'est pas très,
c'est pas
très loin.
Oui. Mais bon, là, on ne peut pas faire mieux. Des fois, on ne peut pas. Il y a bien des gens de Lyon. Un photographe, Pascal Rey, qui est un photographe lyonnais, il va faire le déplacement. Voilà. Mais il va rester plusieurs jours. Il est hébergé. Il en profite pour... voilà. Il ne va pas venir tac-tac comme ça. Hein. C'est... des fois, hein, si tu veux, il y a des gens de plus loin. Parce que des fois, il faut aller la chercher plus loin, la connaissance
l'info.
Aussi.
Ouais. Hein,
enfin, l'info ou la connaissance ou le savoir-faire. Ou... Et puis, plus loin, ce n'est pas les mêmes us et coutumes que chez nous. Donc on se mélange, on voit que les choses, c'est pas du tout pareil. D'un côté, le rural, il rigole de voir le médiéval de la ville avec ses smartphones et tout ça, qui est complètement perdu parce qu'il n'y a pas la 5G. Alors voilà, et ça les fait réfléchir, parce que tout va bien en fait. Tout va très bien en vrai. Voilà, y a pas... Donc voilà, 50 stands différents. Il y avait prévu une quarantaine. Et puis, en fait, On est ouvert, hein. Il y a des gens qui... Voilà. Donc une cinquantaine de stands différents. C'est super. Ça va à des gens qui t'apprennent à greffer les arbres. Donc ça, nous, paysans ruraux, c'est intéressant pour nous. Hein. Un mec de la ville, je crois pas. Peut-être chez lui, son petit bonsaï. Là. Enfin voilà, on peut toujours développer. On va passer au fondeur qui va te faire une pièce en bronze devant toi. Mais ça va être... Enfin, vous verrez ça, parce que faut laisser un peu du... Hein.
Oui, j'étais déjà venu, hein,
j'étais déjà venu, oui. c'est Rekejo, Daniel, hein, qui... Voilà, très très... Avec les Burkinabés, hein, c'est les maîtres du monde sur le fondage. Il est formé par eux. On va avoir Guillaume Léon, qui était déjà là, qui lui, il est ferronnier. Et donc là, il va présenter une œuvre à l'occasion de Tous en bottes, qui ensuite sera scellée sur place. Mais avant de la sceller, il va la prendre et aller la montrer dans d'autres expositions qu'il fait. C'est un dragon. C'est une commande qui a été faite. Hein, mais il est très grand. Voilà. Tout en ferraille. Donc là, dimanche sera l'occasion. Nous, on va le découvrir aussi. On s'est tous cotisés et on va découvrir le... On va découvrir ça. Tu vas avoir des gens qui font des habits recyclés. Hein, deux types d'habits recyclés, des habits vraiment recyclés avec n'importe quoi comme matériaux. Et puis d'autres, c'est des habits avec des matériaux bio, mais qui ne sont pas recyclés cette fois. Hein. Il y a un peu tous les... Donc la recyclerie, c'est très bien hein, aussi. Hein, voilà. Tu vas te retrouver avec des personnes qui te font à manger. Et ben, au bout du monde, ça s'appelle, et ça sera végétarien. Ils serviront du végétarien. On va s'éclater.
Et puis, il y aura de la poterie également, ah de oui, la maroquinerie, de la construction en paille. Enfin, tous les aspects qu'on peut avoir comme nécessité hein, dans notre vie. Et puis, on passe aux conférences avec Brigitte Nolan, qui est énergéticienne et qui propose de montrer comment ça marche.
Comment ça marche et dans la tête et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'il y a plein de gens, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on sait tous, hein, il y a plein de sortes de... Dans l'énergie, il y a plein de chemins. Hein. Alors, énergéticienne, ça ne veut pas dire grand-chose. L'énergie qui est issue de la Terre, avec le réseau Hartmann qui est sous nos pieds, puis il y en a d'autres, hein, il y a plein de réseaux au niveau électrique. La Terre est électrique, et nous-mêmes, humains, nous sommes des piles. Nous sommes électriques. Donc elle va expliquer le rapport entre ça, l'humain, la Terre. Et puis ça dévie toujours, ben, ça soigne en fait. Mais il ne faut pas le dire. Chut. Voilà. Donc il faudra venir pour entendre.
Il y aura également le docteur Dominique Verdet, qui est elle, homéopathe, uniciste. Alors, peut-être exprimer ce que c'est.
Uniciste, c'est soigner dans l'unité. On peut aller voir un homéopathe, il ne prend que la cause, il voit le muscle, il ne va pas, là. On va faire quelque chose sur ce muscle. L'uniciste, il va le muscle, ah, il ne va pas. Et la tête, et les pieds, et le cul, pardon, etc. C'est l'unité du corps et de ce qu'il y a dans le corps qui est prise en compte pour arriver aux soins. C'est un petit peu différent. C'est même excessivement différent. Et il y a aussi l'utilisation d'ondes. Hein, donc les ondes, ça va être par des pendules hein, ou d'autres manières. On prend l'électricité qu'on a dans nous-mêmes. Ce n'est pas des sorciers ces gens, hein, du tout. On a tous de l'électricité. Là, je viens juste d'installer un électrojardin chez moi. Je vais cultiver des pommes de terre et des carottes avec de l'électricité. Mais on pourra en parler ailleurs.
Hein. Eh bien, comme nous serons présents ce dimanche 7, je pense qu'il y aura un temps où on viendra t'écouter. Et... toute la journée aussi, il y a des projections de courts-métrages qui sont de Cornelius Delaunay et de Cyril Noyalet. Des courts-métrages qui ont trait sur quel sujet?
Alors là, c'est la pureté de l'artiste. Hein. Donc Cyril Noyalet, il va beaucoup en Afrique, au Bénin, et il fait des films là-bas. Et il y a un film qui est en préparation, c'est Babalawo. Malheureusement, il n'est pas sorti là tout de suite. Il va bientôt sortir, après quelques années. Donc bah, c'est une visite chez un monsieur qui habite dans une superbe baraque. C'est une case. Et là, il y a plein de statuettes. Et ce monsieur soigne les autres gens. Donc tu vas le voir et tu lui expliques que ça ne va pas. Et lui, il va faire ce qu'il faut pour te soigner. Ici, on appellerait ça un sorcier. Là-bas, non, c'est un soignant, c'est pas un sorcier du tout. Pour être admis à entendre et à voir et à filmer, il faut d'abord faire allégeance à ça, c'est-à-dire que pendant 10 ans, Cyril, il est allé dans des, on va dire, des... Comment on peut appeler ça ? On t'adoube, on t'explique, il faut que tu comprennes. Voilà. Donc tu peux pas y aller sinon. Donc une fois que ça s'est passé pour un blanc, c'est sensationnel. Hein. Il a pu filmer. Donc Babalawo, c'est un film sur ça. Et nous, on est intéressés, en tant qu'association Oreille, parce que c'est du non-dit. On parle pas à ce moment-là. C'est des bonhommes, là, des statuettes, et il y a des choses qui se passent autrement. Et ça, ça nous intéresse par rapport à l'autisme, tout simplement. Voilà. Donc Babalawo, alors là, il va nous présenter un teaser, ça s'appelle. Alors, un teaser, c'est des extraits du Secret des IA, qui est un film qui est déjà fait, qu'on trouve sur Internet, qui est un superbe film aussi, pendant 25 minutes. Les 25 minutes qui suivront, c'est les projections de Cornelius Delaunay. Ce sont des courts-métrages, des dessins animés, mais alors, ça ramonne, hein. Alors, 25 minutes, c'est tous les dessins animés qu'il a en même temps, hein, on les voit à la suite. Et puis, le troisième truc, eh bien, c'est sur les éoliennes. Il y aura donc un montage sur les éoliennes. Donc 20 minutes, 20 minutes et 20 minutes. Et ça se suit tout le temps. Tu rentres dans l'endroit, tu regardes. Ça ne te plaît pas, tu sors, tu vas faire autre chose. Hein, voilà. C'est fait comme ça. Hein. Là, c'est pour montrer aux gens qu'il y a des belles choses. Hein, là, vraiment. Entre Cyril Noyalet qui n'arrive pas à trouver de producteur, etc., qui fait des films pas possibles. C'est pas possible ce qu'il fait. Et Cornelius Delaunay, vous allez voir la production qu'il a. C'est aussi pas possible. Mais comme c'est pas des gens dans le business, dans l'argent ou je ne sais trop quoi, il y a pas, ça débouche pas. Quoi, voilà. Et on a la chance de les avoir vers chez nous.
En tout cas, ils œuvrent pour la postérité.
C'est ça.
Amel Vic, comment as-tu eu connaissance de Tous en bottes au point d'y être ?
Eh ben, c'est grâce à Eddy, hein, c'est avec Eddy. Hein. On en avait parlé. Et ouais, ça me fait très très plaisir de venir. Je suis très curieuse de rencontrer tous ces gens.
De ton côté, en tant que productrice et transformatrice du chocolat, est-ce qu'il y a des échanges avec d'autres congénères sur l'activité ? Est-ce que vous conseillez les uns les autres ? Est-ce qu'il y a aussi un constat par rapport à la crise économique ? Est-ce que cela impacte un peu aussi la production ?
Des échanges un petit peu, pas tant que ça, un petit peu. On a des moments où on se rencontre, mais on n'habite pas très près les uns des autres. Donc, ouais, il y a des moments où on se rencontre, des salons, des choses comme ça. C'est l'occasion, justement, de se rencontrer. Non, moi, je voyais, ils sont en train de passer ils ont passé une loi, là, sur le fait que le cacao, le café, le soja, je crois... En tout cas, ces trois-là, ne rentrera en Europe que s'ils pouvaient prouver qu'ils ne causaient pas de déforestation. Voilà, qu'ils ne venaient pas de la déforestation. Et bon, on imagine bien ce que ça va être. Ça va être un nouveau label. On imagine bien. Et on imagine bien que nos petits producteurs, parce qu'on travaille avec des coopératives de petits producteurs, c'est des familles qui ont... Voilà, c'est des petites surfaces en montagne, hein. N'auront pas ce label-là, mais que Nestlé l'aura. Voilà.
Justement, est-ce que le rôle d'une coopérative ou d'une corporation de chocolatiers n'est pas là aussi pour peut-être mutualiser cet aspect de certification et de pouvoir contrecarrer le coût ?
Ben, je crois que face à Nestlé, il n'y a pas grand-chose qui fait le poids. Donc non, il y a quelques associations, oui, de chocolatiers en France, les Bean to Bar, voilà, c'est un business aussi, hein. Mais c'est difficile. Moi, à un moment donné, par exemple, j'avais rencontré un homme du Cameroun qui a une vieille plantation qui venait de sa famille au Cameroun, parce qu'il faut savoir que le chocolat quand il vient, le chocolat cru, en fait, on travaille que les chocolats d'Amérique du Sud en cru. Parce que c'est les chocolats d'origine, donc ils sont plus doux. C'est un arbre qui est très fragile, qui a du mal à s'implanter ailleurs. Et pour le planter en Afrique, en Asie, ils ont dû l'hybrider, voilà, le renforcer. Et donc, ça a donné quelque chose de plus productif, mais de plus fort aussi, d'où le besoin de la torréfaction. Bref, et du coup, j'avais rencontré ce Camerounais qui avait une petite plantation de famille, qui venait de ses grands-parents. Et il m'avait amené un kilo, comme ça, qu'on avait transformé. Et c'était très, très beau. C'était vraiment des belles fèves, quoi. Et ouais, ça aurait été intéressant d'essayer de le travailler. C'était des vieux arbres, ils avaient 80 ans. Et ça aurait été intéressant de les travailler en cru, pour faire un test comme ça. Mais en fait, c'était impossible pour lui de me l'envoyer par bateau. Voilà, parce qu'en fait, le port, là-bas, il est déjà... Il y a un monopole, il y a une mafia. Et en fait, c'est que les gens qui sont dans le business du cacao qui gèrent ce qui est envoyé. Donc lui, il ne pouvait pas, son cacao, lui, sa plantation, la mettre dans un conteneur pour me l'envoyer. C'était forcément par avion.
Et puis, il y aura d'autres producteurs et transformateurs. On peut parler des herbes aromatiques... Des agneaux, des pâtés plutôt, des glaces artisanales, des marchés en agroécologie, ça serait évident. Et puis des ânes du Poitou, alors ça c'est quoi ça, ânes du Poitou, c'est...
C'est une espèce qui a failli disparaître.
Oui.
Et qui a été revendue aux Américains. Et pour pas que ce soit vendu, on connaît la France. Cotisation générale, et les Américains, ils n'ont pas eu ça. Donc l'âne du Poitou, il est resté en France. C'est les haras nationaux, je crois, on va passer par là, pour garder cette race qui était en voie d'extinction. Donc il y a certains agriculteurs qui se sont spécialisés dans l'élevage de l'âne du Poitou.
Et puis, il y aura aussi les restaurations bio sur place, oui. Avec trois propositions. Nomad Squad, qui propose des desserts, gâteaux et cafés. Ça sera toute la journée, j'imagine.
Toute la journée, ouais, toute la journée.
Au bout du monde, tu en as déjà parlé. Et puis le Bueshkop, qui propose son magasin.
Voilà, tu peux acheter.
Ce sera possible de le visiter. Et tu sais quoi? C'est que depuis que je suis allé, je suis jamais rentré dans le magasin.
Ah ben voilà, tiens.
Voilà, c'est
il
fou,
est itinérant,
ça.
Celui-là, il en installe un petit.
Ah, mais c'est le camion.
Non, il n'a plus le camion.
Ah, il n'y a plus le camion.
Mais parce que le camion, on a vu que c'était comme un sacerdoce.
Oui, ça avait l'air...
C'est vachement bien, on rencontre les gens, c'est génial, etc. Mais les gens, ils n'ont pas la conscience que quand tu te déplaces, ça fait beaucoup de frais. Donc, il va bien falloir amortir les frais. Donc, si tu ne veux pas vendre cher, il faut venir acheter au camion, tout le monde. Voilà. Ce qui n'était pas toujours le cas. C'est pas le cas du tout d'ailleurs, c'est que certains qui viennent, puis tous les autres, ils se rendent pas compte, les gens, la chance qu'ils ont d'avoir à domicile un commerçant. D'autant plus que là, avec la COP, les prix étaient ridicules en fait. Ils étaient les mêmes prix qu'au magasin. Or, quand le commerçant il sort le produit du magasin, il le met dans son camion pour aller le vendre, le prix n'est pas le même. Voilà.
Il y aura aussi des stands pour se nourrir l'esprit avec des dessins, des livres, de l'art. Oui. Et pour ça, il y a une bonne douzaine de stands.
La photo, les auteurs. C'est très bien. Super cette année, vraiment super.
C'est très rempli.
Différent, complètement différent. Rien à voir entre... Il y a nos amis de Fort-Calquier, il y a nos amis de Garagel, les relieurs de Fort-Calquier. Éric Ferrier, le dessinateur du Ravi. Le Ravi qui n'est plus là, parce qu'ils ont ça s'est arrêté, il y en avait marre. Hein. Plus de sous, il y en a marre, quoi. Tu vois, à cause de la politique.
Et pour ponctuer la soirée, donc deux concerts à partir de 19h30 avec Dafra Keïta.
Ouais.
Et pour finir, à Dark Valletta, 21h, on peut peut-être terminer cette émission avec un extrait.
Extrait.
Est-ce que tu en as en connaissance?
Ça, on peut trouver, bien sûr, je te les trouve après. Oui.
D'accord.
Dark Valletta, il est sur le.
D'accord.
Oui. Dark Valletta, tu tapes. Hein, tu vas tomber sur un site.
Cette invitation aux musiques exotiques.
Mais les deux sont exotiques.
Oui.
Du Burkinabé, Burkina Faso. Et l'autre, il est australien, Cornelius. Et Cornelius, c'est celui qui fait les films d'animation aussi. Et qui fait des tableaux. Voilà. Mais les tableaux sont très grands, il en a marre, il n'en vit pas. Donc il fait des films d'animation et de la musique. Voilà. On relit tout.
Amel, ta production chocolat cru, on peut la trouver sur le Diwa?
Alors oui, on peut venir me voir au labo, à la chocolaterie à Châtillon. Je suis ouvert tous les jours de 5 à 7, en ce moment, puis un peu plus l'été, mais toute l'année, de 5 à 7, tous les soirs. Je travaille aussi avec la vie claire de Die. Voilà, pour le Diwa. Ouais. Et sur puis, Internet, pardon.
Sur et puis Internet. Sur Internet.
Voilà, j'ai mon site.
Qui s'intitule
crusauvage.com.
Et Die, pareil, hein, il suffit de taper, je crois que je l'ai annoncé au début de l'émission, hein, le site de Bouège-Pont.
On n'en a pas.
Ah, vous n'avez pas de site ?
Non, on n'en a plus de ça.
Ah,
non,
d'accord.
Non, l'oreille n'a pas de site. Bioscope en avait un, mais bon, il n'y est plus Bioscope, donc on n'a pas de site.
Pour vous joindre, comment faire donc ?
Un téléphone, un mail.
Alors, le mail, c'est l'oreille, L-A-U-R-E-I-2-L-E, @orange.fr, et sinon le 04 92 58 67 33.
Puis il y a un répondeur, on vous répond tout le temps, faut pas hésiter.
Et pour connaître le programme, il est diffusé sur Internet malgré
alors,
tout.
Il est dans les offices de tourisme. On l'a envoyé par ce système-là. Et les offices de tourisme de nos coins, ils ont tous des formulaires comme ça. On est des vieux jeux. L'effort, c'est qu'il est quand même numérisé et qu'on l'envoie via la numérisation. Mais
est-ce qu'il y en aura quelques-uns demain sur le marché ?
Ah non, on n'est pas d'ici.
Non,
à moins que vous en laissiez quelques-uns, oui.
Oh,
on
oui,
en a dans la voiture.
D'accord.
Hein, on n'est pas. Nous, on est ravis de voir les gens de la Drôme. C'est complètement une autre région.
Mmh. Ouais, tu vois, on met trois petits quarts
d'heure pour venir. Quand ça va bien, tu vois, bon. Mais c'est vrai que on en avait parlé lors d'une autre émission. C'est les penchants des montagnes.
Ouais,
donc,
ça fait...
même si tu es haut dans la montagne, tu descends. Tu ne montes pas pour redescendre. C'est sous... Voilà, donc ça fait ça aussi. T'es dans les Hautes-Alpes, c'est... il y a des trucs ici pas possibles, hein, sur le Diwa, de l'autre côté, non, il n'y a rien du tout. C'est dur de monter le col et de le redescendre. Et c'est tout le monde comme ça. Donc les gens, ils vont en bas. Chez nous, en bas, ben, c'est vers Vennes, Gap, Manosque. Mais ils ne viennent pas là, a dit, ou très peu. Et puis après, il y a la coupure administrative. Et c'est, vous êtes Rona, non, c'est ça ?
Oui.
Et nous, c'est, je crois que c'est toujours PACA, hein, mais qu'ils aient tout changé. Là, c'est pas pareil. On n'est pas les mêmes gens, apparemment. Voilà.
Oui, notamment avec les chambres d'agriculture.
Tout à fait, avec les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, les machins, les bidules. C'est tout compliqué. En fait.
C'est un autre monde.
Ouais.
Eddy et Amel, merci d'être venus sur Air d'Ivoire pour nous parler donc de Tous en bottes, qui aura lieu ce dimanche 7 mai, à partir de 10h à la Baume.
Merci.
Bonne soirée.
Et bonsoir à tous. Bonsoir.
Au revoir. Yeah.
idole.